Chapitre 8e. Norton n'avait rien dit à Sylvia. Congédiant M. de Solis, il le priait de ne rien laisser soupçonner à la marquise, et Georges, retrouvant sa mère, s'éloignait de la villa normande en emportant une impression bizarre. Le sentiment que Richard, sans rien deviner, avait cependant la perception qu'une peine morale s'ajoutait à la maladie de Sylvia, et que le Yankee chercherait à suivre désormais la piste, à tout savoir. Mais Norton avait d'abord à résister à l'imprévu. Richard pria Montgomery de revenir le lendemain, dans la matinée. Il passerait la plus grande partie de la nuit à faire les calculs nécessités par la catastrophe. L'Américain se retrouverait d'ailleurs prêt à la lutte, et n'ayant rien perdu de cette énergie, de cette combativité, de cette sorte de courage à la fois musculaire et moral qu'ils appellent le plaque. Norton était debout, de grand matin, ayant combiné tout un plan de campagne. Il prit un bateau pour le Havre, voulant, avant de quitter la France, laisser des instructions à la banque, arrêter aussi, à bord de la Normandie qui partait dans 3 jours, le samedi, une cabine pour lui et Sylvia, car peut-être demanda-t-il à Mrs. Norton de l'accompagner. Il lui déplaisait en effet de laisser Sylvia en France, et la perspective de ces mines de Saint-John inondées lui semblait moins désagréable que les inquiétudes morales qui grandissaient en lui à mesure qu'il analysait plus profondément et de plus près l'état d'esprit de sa femme. Volontairement, il se débattait, non contre la jalousie encore, mais contre des idées qui l'attristaient, le troublaient, lui faisaient regarder presque comme une quantité négligeable le malheur dont le télégraphe lui apportait la nouvelle. Et lui, l'homme du fait et du succès, le soldat de la fortune, haussait les épaules, ses épaules qu'il sentait assez robustes pour tout supporter, en se disant « Plaie d'argent n'est pas mortelle, ce qui tue c'est la douleur morale ». La nécessité qui le contraignait à régler ses affaires à la banque, à prendre sa place sur un transatlantique, balayait du reste un peu ses idées noires. Au Havre, le mouvement du port vers les docks et les bassins lui donnait l'illusion de la patrie, le frémissement des rues de labeur au temps de sa jeunesse. Norton éprouvait, à se trouver parmi ses matelots, la sensation d'être à New York, ou dans quelque port américain où se brassaient des millions d'affaires. Ses peaux de bœufs débarquées et jetées à terre, comme des planches finement sciées, ses tas de bois de Norvège à la bonne odeur de sapin, entassés géométriquement et pareils, avec leur couleur jaune à des blocs de beurre, ces forêts coupées de bois de campêche semblables à des troncs saignants, ces bassins où des ouvriers frappaient sur les flancs de métal des navires, où les transatlantiques chauffaient, attendant le départ, où les bateaux arrivaient rongés par les traversées lointaines et portant incrustés à leur ventre des coquillages blancs et longs, inconnus sous le ciel de France, accrochés çà et là dans les mers du Sud, et dans leur forme lancéolée, pareille à des floraisons blanches, ces terrassements qu'on faisait là-bas, à perte de vue, vers Tancarville, cette terre remuée, ces quais tout neufs, tout blancs sous le ciel clair, cette conquête de l'homme sur la mer, cette activité qui lui semblait toute simple et même un peu alanguie, à lui, américain, remueur de monde, lui donnait pourtant la vision d'un autre univers plus tumultueux et plus enfiévré. Odeur de goudron, de bois des îles, de cuir tanné, de charbon, de fer, de coke, de saumure et de mer. Norton se retrouvait dans la bataille, comme un soldat dans la poudre et le salpêtre. Puis, tout à coup, à bord de la Normandie, c'était à Sylvia qu'il pensait. Il revoyait les places mêmes, où, de New York au Havre, il s'était assis avec elle sous la tente, pendant les longues journées où, les yeux tristes, elle regardait devant elle ces deux infinis, le ciel et la mer. Il redemandait les 2 cabines contiguës qu'ils avaient occupées. Il s'arrêtait devant la carte où l'épingle surmontée d'un petit drapeau tricolore marquait chaque jour, durant le voyage, la distance parcourue. Avec quelle curiosité de voyageuse, Eva suivait, sur les courbes tracées en plein Atlantique, les progrès du steamer. Sylvia, elle, demeurait indifférente, comme si, en Amérique ou en Europe, la vie dût être également monotone et vide. Ou encore, si le vent se levait, elle semblait respirer mal à l'aise, angoissée comme si une main lui eût serré le cœur, comme si elle eût étouffé dans la rafale, puis elle redevenait abattue et morne, et Morton se rappelait les mélancolies de sa femme, tristesse d'autrefois, dont il lui semblait avoir le secret aujourd'hui, et l'image de Solis passait à présent et repassait devant ses yeux. Oui, en partant, il emmènerait peut-être Sylvia et Eva avec elle. Il arrêtait du moins leur place et il regardait, par le hublot de la cabine qu'elles occuperaient, le port, les navires, en se disant qu'elle serait là bientôt sans doute et que le malheur qui les rappelait là-bas lui épargnait peut-être à lui ici une souffrance. Assuré de retrouver sur le transatlantique les cabines voulues, Norton, ses instructions une fois données à la banque, revint à Trouville, où Montgomery l'attendait à la villa normande en lisant le New York Herald. « Eh bien, mon cher Montgomery, voilà qui est convenu, » lui dit Norton. « Je pars samedi matin. 3 jours, cela passe vite. Vous voudrez bien me télégraphier à New York s'il survient quelque incident ici. Mais ce que je vous demande surtout, c'est de garder le secret sur la dépêche que vous m'avez remise. La nouvelle d'un tel désastre pourrait être préjudiciable à nos affaires. Vous êtes un de mes associés dans l'affaire des chemins de fer du Dakota. Je n'ai pas besoin de vous dire l'importance qu'a mon voyage. Si Mrs. Norton m'accompagne, il est possible que je ne revienne plus en France. Si au contraire elle reste avec ma nièce, je serai sous peu de jours de retour à Trouville ou à Paris. D'ici là, je vous charge de mes intérêts matériels en France. J'espère qu'on ne sait rien encore. Je ne pense pas, dit Montgomery. Au casino, où l'on commande volontiers toutes les nouvelles, je n'ai pas entendu souffler mot de la dépêche. Tant mieux. J'aurai donc tout le temps de tout réparer là-bas, avant que l'éveil n'ait été donné. J'ai beaucoup réfléchi et je suis armé. En principe, le malheur n'est pas sans remède. Mais les mauvais bruits grossissent par l'éloignement. Si on savait à Paris que les mines de Saint-John sont inondées, mon crédit, tout considérable qu'il est, s'en trouverait diminué. Et j'ai besoin de la confiance de tout le monde pour les grandes entreprises qu'il me reste à faire. Des entreprises utiles à bien des gens, vous le savez, Montgomery. Des cités ouvrières, des boarding houses pour les artisans, des railways à bon marché, des wagons spéciaux pour les pauvres gens. Rêves de philanthropes qui peuvent vous coûter cher. Et où avez-vous vu que les rêves ne coûtent pas cher ? Fit Norton avec un sourire triste. Tout se paye, même les chimères, surtout les chimères. Alors, cher ami, c'est entendu ? Entendu. Je vous câblerai toutes les nouvelles un peu importantes. Quand je dis toutes, j'en négligerai. Il y en a beaucoup à négliger, beaucoup, beaucoup. Et Montgomery ajouta en balançant sa grosse tête. Heureusement. Il y avait dans ce mot comme une réticence cachée qui éveilla l'attention de Richard. Pourquoi heureusement ? Ah, c'est que si on se laissait aller à faire attention à tout ce qui se colporte. Le monde, en effet, a des paroles à perdre, fit Norton. S'il ne faisait que les perdre, mais il les ramasse. Qu'est-ce que vous voulez dire, Montgomery ? Vous savez que je n'aime pas les énigmes. Qu'est-ce que vous avez entendu ? Rien, rien du tout. Je fais comme ça, de la philosophie, en l'air. Tiens, ma femme, dit-il en regardant à travers les vitraux de la baie. « Ma femme et monsieur de Bernière. Ils viennent rendre visite à Mrs. Norton. « Et parbleu, oui, je sais, il y a une partie organisée pour aujourd'hui, une surprise partie. « Vous n'avez pas dit à Mrs. Montgomery quelle dépêche j'avais reçue, n'est-ce pas ?»« Non, non. D'ailleurs, nous causons très peu, ma femme et moi, et jamais de mes affaires. Nous causons art, peinture, portrait. » Et Montgomery laissait échapper un soupir, gros comme le halètement d'un souffle de forge. Il allait d'ailleurs expliquer pourquoi il soupirait ainsi, lorsque Madame Montgomery entra, toujours superbe dans une toilette jaune d'or relevée de rubans couleur mousse. « Bonjour Norton, » dit-elle en tendant la main à Richard. Puis, apercevant Montgomery et l'air un peu étonné, « Tiens, tiens, mon mari, comment allez-vous, mon cher ?»« Très bien, » fit Montgomery. « Avez-vous vu Harrison ?» demanda la belle Liliane. « Voilà le portrait, le voilà !» grommela Montgomery parlant à Norton. Montgomery répondit « J'ai vu Harrison. » Et la réponse amena chez lui le même gros soupir gonflé. « Et il a accepté ?» demanda Madame Montgomery. « Et il a accepté ?» « Et il a accepté. » »« Tant mieux, il fera de moi un portrait excellent. Il connaît déjà ma physionomie. » Le second mari de la belle Liliane essaya d'éluder une grimace et dit « C'est ce qu'il a précisément eu la bonté de me faire remarquer. Oh, correct, d'ailleurs, votre... C'est Harrison. Très correct. C'est égal. Moi, le second mari, allez demander au premier. Dites donc, vous n'allez pas être jaloux, fit Liliane. D'abord, quoique je n'aime pas follement votre nom, je lui suis aussi fidèle que s'il s'écrivait avec deux M. Et puis, s'il y avait quelqu'un qui dût être jaloux, soyez de bon compte, ce n'est pas vous, c'est Harrison.
Parfaitement, interrompit Montgomery, mais c'est égal. Je vous jure que Carolus
vous eût fait un portrait qui vaudrait tous ceux d'Harrison.
Allons donc, il aurait fallu qu'il m'étudiât.
Carolus, tandis qu'avec Harrison, c'est tout fait.
Et se tournant vers Norton, qui n'écoutait pas, l'œil perdu dans des pensées lointaines,
« Sylvia est-elle visible ?»«
Certainement, » dit Norton.
« Et je vous prie de m'excuser, madame. Je voudrais faire un tour au casino une minute.
Je tiens, » dit-il tout bas à Montgomery, « à ce qu'on me voie jusqu'au dernier moment et même, si mon départ pouvait passer inaperçu,
je sors avec vous. »
« Vous n'avez plus rien à me dire, ma chère Liliane ?» demanda Montgomery à sa femme.
« Non, au revoir, chère. Au revoir. »
Il s'éloignait.
Elle rappela Montgomery avec un sourire.
« Ah, Lionel, mon cher Lionel. »
« Liliane ?»«
Merci pour Harrison, vous savez.
Oui,
oui, je comprends tout le mérite de votre démarche. Deux fois, merci. »
« Par deux M, » dit en sortant Montgomery, soupirant toujours.
Liliane suivit des yeux son mari avec cette expression indulgente des femmes qui se résignent, et elle demanda à un valet de pied de l'annoncer chez Mrs. Norton. Sylvia était dans sa chambre, étendue sur une chaise longue, et se soulevant à demi, elle parut heureuse de cette visite qui lui arrivait là comme un rayon de soleil.
« Bonjour, cher.
Voyons ce visage, » dit Liliane, et elle regardait son amie.
« Allons, aujourd'hui, pas trop mal. »
« Ah, j'avais hâte de vous voir.
Mes visites ne vous font peut-être pas autant de plaisir qu'à moi. »«
Qu'est-ce que vous dites là ?» fit Sylvia.
« Vous savez combien je vous aime. »«
Oh, c'est que moi je suis folle, et que mes grelots peuvent ne pas toujours plaire à votre mélancolie. »«
Mais aujourd'hui, » elle baissait la voix,
« j'ai à vous parler. »«
Ah, tout à fait sérieusement, presque à vous gronder. »«
Moi ?»
dit Madame Norton, un peu étonnée de l'air grave qu'affectait tout à coup son amie.
« Oui, vous n'êtes pas assez prudente, ma chère. Vous allez vous promener au bord de la mer, toute seule, trop tard. »
C'est ce que me répète le docteur Farjas, qui me trouve imprudente aussi, comme vous dites. Mais il a beau prétendre que l'air de la mer, à une certaine heure, peut être nuisible à ma poitrine, ou à mes nerfs, je ne sais pas au juste. Je n'en éprouve pas moins d'infinies sensations de bien-être, à me sentir seule, libre, pensant à ce qui me plaît, allant où je veux, sur cette plage alors déserte.
« J'entends bien, » dit Madame Montgomery. « Mais ce n'est pas la plage que je vous reproche, c'est... »«
C'est quoi ?»
Liliane hésita un moment, comme si elle craignait d'être indiscrète, puis, doucement assise près de son amie, en lui prenant les mains.
« Ma chère Sylvia, vous savez si je vous aime, n'est-ce pas ? Je me jetterai à l'eau pour vous. Et quand je dis à l'eau, je ne serai pas un bien grand sacrifice par le temps qu'il fait. Je me jetterai au feu, vrai !»
« Je voudrais vous voir heureuse, très heureuse.
Je sais que vous ne l'êtes pas, mais je vous assure que ce n'est pas le changement qui vous donnera le bonheur. »«
Je ne vous comprends pas, » dit Sylvia, sincèrement étonnée.
« C'est pourtant bien simple. Me voilà, moi, par exemple, j'ai épousé Harrison.
Je ne sais pas exactement pour quelle raison je l'ai épousé à Harrison. Je l'ai pris en horreur, je ne sais pas non plus pourquoi.
J'ai accepté la main de Montgomery. Je ne sais pas en vertu de quelle impulsion.
Eh bien, en toute sincérité, cher ami, pour la différence, oh mon Dieu, ça ne valait pas la peine.
Un mari, c'est toujours un mari, et celui qui remplace le mari en est un autre.
Sylvia regardait Liliane de ses yeux profonds et tristes.
Vraiment, ma chère, dit-elle, je vous écoute et je ne sais pas, je vous jure que je ne sais pas ce que vous voulez me dire.
Voyons, vous me permettez d'être franche, n'est-ce pas ?
Je vous le demande.
« Vous ne vous fâcherez de rien. »«
De rien. »«
Vous savez, je vous le répète, que je suis votre amie. »«
Et ma seule amie, »
dit fermement Mrs. Norton.
« Qu'est-ce que vous avez fait à Arabella Dixon ?»«
À Arabella ?»«
Oui. » »«
À Mrs. Dixon ou au colonel Dixon ?»«
Bref, à l'un des Dixon. »«
« Mais je ne leur ai rien fait du tout, » répondit Sylvia, très surprise. « Je ne les connais pas, les Dixon. Je les trouvais fort belles, cette Arabella, voilà tout. Voilà tout. Et vous croyez-vous qu'on peut dire comme cela, voilà tout ? Quand on a devant soi une mère acharnée à marier sa fille, une fille fatiguée de promener ses épaules de Monte-Carlo à Wiesbaden et de Luchon à Dinard, sans compter le colonel, un colonel qui a dû assiéger plus de gendres que de citadelles. Eh bien, tout ce monde-là est furieux contre vous, ma chère Sylvia, et fait un bruit, un bruit. Ah, des bourdonnements comme une ruche d'abeilles, des abeilles sans miel, ajouta Liliane en riant. Sylvia devenait inquiète, sans pouvoir s'expliquer la cause même de cette inquiétude. Elle demanda. Et pourquoi tout ce bruit ? Plus vous me parlez de ces Dixon, moins je comprends comment je puis, moi. Eh bien, mais ne vous fâchez pas, dit Liliane. Et monsieur de Solis ? Monsieur de Solis ? Oui. C'était sur lui que le colonel et la colonelle et la petite colonelle avaient braqué leur bas. Et comme monsieur le marquis ne fait pas mine de capituler, et qu'il a des raisons pour ne pas le faire.
Des raisons, quelles raisons ? Dit Sylvia brusquement.
C'est vous qui le demandez, fait Mrs. Montgomery.
Voyons, Sylvia, je vais vous prouver toute mon affection en me montrant très, très indiscrète. Mais je vous jure, dit-elle avec un accent sincère et profond, oui, je vous jure que c'est l'amitié que je vous porte qui me fait parler. Je vous ai dit que vous étiez très imprudente, eh bien, je vous le répète, vous êtes très imprudente.
Moi ?
Et que signifie ? Voyons. Vous êtes allé souvent du côté de Tourgeville dans une petite cahue de pêcheurs, très pittoresque, oh, très pittoresque. Je l'ai photographié. Je vous montrerai même le cliché, très réussi. Excellent, mon appareil, un détective. Mais vous êtes allé plus d'une fois à une heure où il n'y avait guère de lumière, photogénique. J'allais porter des secours à une pauvre femme à laquelle je m'intéresse, répondit Sylvia. Liliane souriait.
Oh, je sais bien. Mais le malheur est qu'hier, pas plus tard qu'hier, on vous y a vu,
hier, et que 5 minutes après votre entrée chez la mère Ruot, monsieur de Solis, poussait la porte de la pauvre femme, ayant entré aussi après vous,
après moi.
Je ne sais pas ce que pouvait avoir à faire le colonel Dixon de ce côté-là, quelques reconnaissances offensives sans doute, toujours est-il qu'il vous a vu.
Sylvia se leva brusquement, une rougeur de colère montant à ses joues pâlies.
« Il m'a vu, moi, là-bas, avec monsieur de Solis.
Mais c'est faux !» dit-elle indignée.
« Mais il a menti. Il a pu voir monsieur de Solis, il a pu voir une autre femme, mais ce n'était pas moi, ce n'était pas moi !»
Son accent de sincérité douloureuse fit presque regretter à Mrs. Montgomery d'avoir parlé.
« Je vous crois, ma chère Sylvia, je vous crois. Mais il n'en est pas moins vrai que le colonel et sa perruche de colonel ont raconté...
« Que m'importe ce qu'ils disent ?» fit Sylvia en haussant les épaules.
« De quoi s'occupent ces gens dont j'ignore l'existence et qui sont là à épier la mienne ?»«
Monsieur de Solis, chez Victoire Ruot, avec une autre femme. »
Elle s'arrêta tout à coup, pensive, inquiète, et dit brusquement.
« Quelle autre femme ?»
Alors Liliane hocha la tête, souriant presque mélancoliquement, l'éternelle rieuse.
« Ah, ma pauvre amie, ma pauvre amie !»
Voilà un point d'interrogation que je ne vous conseillerais pas de poser devant une autre que moi.
« Qu'est-ce que j'ai dit ?» demanda Sylvia comme inconsciente de l'aveu.
« Rien. Mais l'idée seule qu'une autre, cette simple idée. Mais vous êtes jalouse, ma pauvre amie.
Mais c'est plus sérieux que je ne l'aurais cru. Mais vous l'aimez toujours.
Ah, je vous envie d'aimer quelqu'un, vous. Seulement, je vous assure que je vous plains. » Elle tenait entre ses bras la jeune femme dont le regard maintenant était voilé de larmes, et avec une sorte de pitié maternelle, elle essayait de donner un peu de confiance à cette âme en détresse. Deux ou trois coups frappés à la porte les firent tressaillir l'un et l'autre.
« Essuyez vos yeux, Sylvia. »
Puis, souriante,
« Entrez, »
dit-elle. C'était le docteur Farjas.
« Par exemple, »
fit-il en riant,
« voilà une villa bien gardée. Pas de domestique pour annoncer. »
« Eh bien, chère Madame Norton,
les nerfs aujourd'hui, est-ce que nous les domptons un peu, nos nerfs ?»«
Vous voyez, » dit Liliane, en montrant Sylvia encore troublée.
« Oh, oh !»
Et le docteur hochait la tête.
« Nous ne les domptons pas trop, ces misérables nerfs. Qu'est-ce que vous avez donc ? je ne sais, une émotion. Que j'ai eu la niaiserie de provoquer par un bavardage inutile, fit Madame Montgomery. Vous m'en voulez ? Demanda-t-elle à Sylvia. Non, ma chère Liliane, au contraire, je vois que vous m'aimez vraiment. Farjas faisait, en se tordant les lèvres, une petite moue mécontente. Ah, les émotions, les surexcitations, c'est pourtant défendu, ça. C'est comme le bord de la mer. Je ne crois pas que ça nous réussisse, le bord de la mer. Décidément, il faudrait essayer des montagnes. Bagnères, Cambo, ou tout bonnement revenir à Paris. C'est encore là qu'on a le moins froid l'hiver et le moins chaud l'été. On n'est jamais mieux que chez soi, dit Liliane. Et j'ai une idée, docteur. Si Sylvia retournait tout bonnement en Amérique. Farjas fit de la tête un signe négatif. Une traversée, non, non. Ne songeons pas à cela. Mais je voudrais, sans aller aussi loin, en restant en France, du calme, du repos. Avez-vous une plume ? Je vais rédiger une ordonnance. Et pendant que sur le bureau de Sylvia, il écrivait rapidement, Madame Montgomery lisait par-dessus son épaule « Iodure de sodium, 50 centigrammes par jour, à continuer pendant un mois, dans une tasse de tisane de valériane, matin et soir. » « C'est toujours la même chose ? » dit-elle. « Ah, parbleu ! » fit le docteur. « Il y aurait bien d'autres remèdes, mais... » Il s'arrêta, comme craignant d'en trop dire. « Mais ?» demanda Liliane. « Pardon, chère madame, la faculté a ses secrets. » « Et la femme les devine, quelquefois, » dit Madame Montgomery. Elle s'était retournée vers Sylvia, à qui maintenant le valet de pied apportait des cartes sur un plateau, et elle remarquait l'émotion de Mrs. Norton. « Quoi donc ? » demanda-t-elle. Elle regarda les cartes à son tour. Monsieur de Bernière, le marquis et la marquise de Solis. « Georges de Solis, vous ne pouvez pas les recevoir. »« Et pourquoi ne les recevrai-je pas ? » dit Sylvia. Seulement j'ai besoin de me remettre. Tout ce que vous m'avez conté m'a un peu troublé. Seriez-vous assez aimable, cher ami, pour faire prendre patience à la marquise ? Au salon. Je vous y rejoindrai dans un moment. Parfaitement, je descends, dit Liliane. Elle regardait Farjas qui écrivait toujours, n'ayant pas levé la tête et déjà sur le seuil de la porte. De la valériane. Pour le cœur, oui, pensait Mrs. Montgomery. Ça l'empêche de battre. Ça ne l'empêche pas de souffrir.